Bonsoir, nous sommes heureux de vous retrouver, l'ouvreuse Louis-Marie, Laurent Martin. Bonsoir Laurent.
Bonsoir Louis-Marie, bonsoir à tous.
Comment allez-vous Laurent ?
Ça va très bien et vous-même ?
Ça va, ça va. Vous êtes venu frais et dispo.
Oui, tout à fait, avec ce beau temps, on marche dans les rues de Toulouse.
Oui, avec un petit brin de une petite fleur entre les dents. Enfin,
oui,
ramasser
oui.
Une petite fleur à Toulouse, c'est compliqué, mais oui. Vous y arrivez, vous qui savez par où venir à la radio pour croiser quelques endroits verdoyants.
Voilà, on s'y flotte dans les rues, le temps s'y prête, voilà, pourvu que ça dure, comme disait l'autre.
Laurent, vous allez nous parler de films à voir à la télé. Combien
oui,
ce soir?
Parce que le soir, il n'y a pas de soleil, donc il fait nuit, et
ben oui.
Parfois on s'ennuie à la maison, donc on peut allumer sa télé. J'essaye de dénicher deux bons films. J'ai sélectionné quatre films pour le cinéma à la télévision cette semaine. Il y aura un conseil de bande dessinée pour rire ou sourire un petit peu. On en a besoin, c'est trop difficile.
Mais vous avez toujours des conseils, les conseils à Lolo qui sont formidables.
Oui, on essaye, oui.
Avec nous également, il est là, notre spécialiste, de la mécanique cinématographique. Il est dans son atelier, il a revêtu son bleu de travail. Guillaume Sidom, bonsoir.
Bonsoir à tous et à toutes.
Comment allez-vous, Guillaume ?
Très bien. Temps printanier, beau film, la Cinémathèque qui a réouvert, on en a parlé la semaine dernière, des festivals à venir, donc tout va bien.
C'était une grande fête, effectivement, à la Cinémathèque le week-end dernier. Ils avaient mis les petits plats dans les grands et les spectateurs, les Toulousains et plus largement tous les gens qui vivent dans l'agglomération toulousaine, voire dans la région Occitanie, sont venus fêter la réouverture de ce bel établissement. Vous étiez d'ailleurs, Guillaume Sidom.
Tout à fait.
Alors, racontez-nous.
Ah bah c'était très très sympathique, réouverture, il y avait un café, les séances étaient gratuites en plus, avec 36 heures de séance non-stop, c'est ça ?
Oui, 36 heures.
Et donc c'était très très intéressant et très agréable.
Il a pas tenu le coup, il s'est arrêté à 35e. Et...
Voilà. Vous parlez de mon bleu de travail, mais il est pas aussi bleu que voilà l'auditrice de Saint-Giron qui est venue avec sa voiture,
oui.
Même si l'essence coûte cher.
Oui, l'essence coûte cher.
Elle a fait l'effort de venir nous voir en plateau, donc je salue Blandine de Saint-Giron. Vous pouvez nous écouter sur 97.3.
Bienvenue à elle.
Bon, alors maintenant que les présentations sont faites, merci Blandine d'être là, Guillaume Sidom, dites-nous tout sur ce dont vous allez nous parler.
C'est un film culte et choc ce soir, un film brillant, aussi violent, surprenant et peut-être un séisme cinématographique. En tout cas, à l'époque, il a fait couler beaucoup d'encre.
C'est noté, on est fébrile et on est impatient de découvrir ce dont vous allez nous parler. Il sera là ce soir, puisque vous savez que la semaine dernière, il nous avait envoyé un mot d'excuse signé des parents pour justifier de son absence. Il est là, notre homme de loi des séries qui ouvrira son tribunal des séries ce soir. Grégory Com parle du retour de Malcolm. Malcolm, rien n'a changé sur Disney+. Il s'est aiguisé les dents, vous allez voir, ça va être redoutable. Ce soir aussi, dans le panier de l'ouvreuse, il y a l'affiche de la semaine qu'elle va scruter avec vous, Laurent Martin. Il y aura les reprises, sur le petit, on vient d'en parler, et sur le grand aussi, il y a de bien belles surprises. Vous allez voir. Et puis, on a, en fin d'émission, des coups de cœur, parce qu'on a toujours des films, des manifestations qu'on a envie que vous alliez voir de notre part. Et ce soir, nous avons une invitée de choix en la personne de Vanessa Bianchi. Alors, vous allez me dire si je me trompe, Vanessa, vous êtes la coprésidente, mais aussi la directrice de la programmation du Festival des cinémas indiens de Toulouse, qui souffle cette année sa 11e bougie.
Non, vous avez tout juste et bonsoir à tous, merci de vous retrouver, je suis très contente de vous retrouver tous un an plus tard. Et donc oui, c'est bien la 11e et je suis bien la directrice de la programmation.
Alors, le Festival des cinémas indiens de Toulouse se déroulera de mercredi prochain, le 22, jusqu'au dimanche 26 avril, avec une belle programmation. Dites-nous, redites-le nous. Combien c'est difficile d'avoir des films indiens à proposer aux cinéphiles toulousains.
C'est vrai. Et ça n'est pas plus simple d'année en année. Donc oui, c'est très difficile. Mais c'est très difficile, mais c'est passionnant aussi. Très stimulant. Mais c'est vrai que nos pays fonctionnent de manière très différente. Et les négociations sont âpres.
Ah tiens, vous négociez dans quelle langue ?
En anglais essentiellement.
Oui, ça paraît compliqué parce que il y a une langue officielle en Inde.
Il y a deux langues officielles, administratives on va dire, c'est l'anglais,
oui.
Et deux langues officielles avec l'hindi. Après vous avez en fait 22 langues officielles, donc il y en a 20 autres. Et il y en a encore quelques centaines en plus.
Oui, parce qu'il y a, rappelez-nous un peu la géographie indienne, il y a différentes régions qui ont chacune leur culture.
Différentes régions qui ont chacune leur culture, chacune leur industrie cinématographique et chacune plusieurs langues.
Oui, donc ça complique sérieusement votre travail quand il s'agit de trouver des films. Ou
non,
en tout cas de parvenir à les avoir.
Je pense que la différence, elle n'est pas la difficulté n'est pas linguistique à proprement parler.
Non, mais je pensais pas à la difficulté linguistique. Je pensais que on pense l'Inde comme un pays, et en fait il y a beaucoup de régions avec des cultures différentes et donc des cinémas différents. Vous l'avez dit, et c'est pour arriver à avoir le meilleur panorama qu'on puisse imaginer proposer aux spectateurs, non ?
Alors, de ce point de vue-là, c'est mon travail et j'y travaille toute l'année. Donc, oui, c'est un travail stimulant et un peu difficile. Mais sur la négociation à proprement parler, c'est surtout que l'Inde et la France fonctionnent très différemment, sans juger ni de l'une ni de l'autre. Et donc, dans ces cas-là, le travail de négociation, c'est rassurer des deux côtés, de manière à ce que ça puisse se faire. C'est vrai que l'Inde aussi est confrontée à une énorme problématique de piratage. Vous allez me dire tout le monde, mais c'est vraiment très marqué en Inde. Donc je comprends aussi d'une certaine manière leurs inquiétudes, qu'il faut rassurer.
Alors cette année, vous avez réussi à réunir au niveau de la fiction, j'entends, si je compte bien, une dizaine de films, c'est ça ?
En long métrage, oui.
Oui, et parce qu'il y a aussi des courts métrages.
C'est ça.
Est-ce que les difficultés sont les mêmes, quel que soit le format ? C'est-à-dire
non.
Les courts comme les longs.
Alors, en tout cas, je parle de mon expérience avec ce pays-là ou ce continent-là. Non, c'est plus facile en général avec les courts. Mais je comprends aussi parce que la pression n'est pas la même. Si vous avez ce souci, si on prend que le souci de piratage sur un long métrage, ça peut vraiment handicaper la sortie en salle. Ce qui n'est pas forcément... Les courts sortent rarement en salle, donc la pression est moindre sur ce sujet-là. Sur les longs métrages, on continue sur notre lancée. Hein. On essaye de couvrir plusieurs régions indiennes, pas toutes. Et effectivement, je tiens une veille toute l'année, j'en visionne toute l'année pour essayer d'apporter une programmation harmonieuse, en tout cas équilibrée et variée pour les spectateurs toulousains et au-delà.
Eh bien, on va en parler tout au long de cette émission. Vanessa Bianchi, vous restez avec nous.
Sure.
Il y a plein de choses à dire sur les cinémas indiens, vous l'avez compris, mais tout de suite, on regarde un film. Alors, attention, ce film est en VF, mais même en VF, il utilise un langage très particulier qui s'appelle le Natsat, qui a été adapté pour la VF, puisque au départ, le Natsat, c'est un argot anglo-russe, donc là, il est franco-russe. J'en vois qui sourit. Non, franco-russe, c'est ça, c'est pas le dessert. Et inventé par Anthony Burgess, puisque c'est lui qui est à l'origine du film dont vous allez voir un extrait. On y est.
La Devotchka schmeckait à gorge déployée sans se soucier des misères du monde. Et voilà que la stéréo s'est arrêtée. Et pendant la courte pause avant le disque suivant, elle a lâché un feu d'artifice vocal. Et j'ai cru un bref instant, ô mes frères, qu'un oiseau voletait dans ce milkbar. J'ai senti tous les malins qui petits poils de mon bloc se dresser à l'envers. Et des frissons montaient en moi comme des malins qui lézards, et puis retombaient. Car je savais ce qu'elle chantait. Un passage de la sublime 9e de Ludwig van.
Pourquoi est-ce que tu as fait ça ?
Parce que tu es un bâtard sans manière et sans une douque d'idée de la façon de te tenir en public, ô mon frère.
Drôle de façon de traiter ses frères, n'est-ce pas, Guillaume Sidhomme ?
Oui, tout à fait, pour Orange Mécanique, un film culte. Vous êtes déjà d'ailleurs dans le bain et Choc, signé Stanley Kubrick, sorti sur vos écrans en 1971, avec notamment Malcolm McDowell, Michael Bates, Philip Stone sur l'écran. un visage légèrement incliné vers le bas, les yeux en direction des nôtres, chapeau rond enfoncé, œil gauche qui soutient notre regard, œil droit intensifié par deux rangées de fossiles créant une asymétrie troublante que vient relayer une fossette légèrement plus marquée que l'autre. Verre de lait à la main, le défi est lancé. Combien de temps allons-nous, spectateurs, pouvoir soutenir ce regard qui contient déjà le rire destructeur de celui qui ne fait aucune différence entre le monde qui l'entoure et celui qu'il imagine. Souvenez-vous de cet œil bleu grand ouvert, enserré dans un écarteur de paupières, cet instrument de torture qui contraint Alex, le héros d'Orange Mécanique, à regarder des images atroces sur un écran de cinéma. Souvenez-vous aussi de ce même Alex, tout de blanc vêtu, bâton à la main, tabassant un sans-abri avec sa bande d'amis, sur fond donc de musique classique, Orange Mécanique, qui sort en 1971, c'est cela. Une violence physique et morale qui dérange, mais aussi des images fortes, marquantes, mythiques. Le film le plus grand succès public de Stanley Kubrick sera aussi son œuvre la plus controversée, visionnaire et pessimiste. Orange Mécanique dresse le portrait d'un monde moderne en décomposition, où la violence des citoyens n'a d'égal que celle de l'État, une bonne petite fête d'ultra-violence, selon les mots du personnage principal, mais aussi un film qui pense et qui perturbe, comme beaucoup de films de Kubrick, voire tous, me diriez-vous. Oui, bien sûr. Mais de ce point de vue, Orange est un morceau de choix. Sorti en 1971, Orange Mécanique est un coup de tonnerre à sa sortie. D'abord diffusé au cinéma, puis censuré, le film choque autant qu'il fascine. L'ultra-violence de ces scènes filmées avec un esthétisme particulier, le tout accompagné d'une bande originale composée de standards de la musique classique, Beethoven donc, mais aussi Rossini et elle, eux-mêmes réarrangés à l'aide d'un synthétiseur électronique, fait voler en éclats les codes du 7e art. Oh bonheur, félicité et paradis, c'était la splendeur faite chair. C'était un oiseau de métal céleste des plus rares ou du vin argenté coulant dans un vaisseau spatial. La gravité est un non-sens maintenant, des paroles délirantes pour un personnage qu'on aime détester. Ce personnage se nomme donc Alex et ses paroles sont prononcées sur le deuxième mouvement de la 9e symphonie de von Beethoven, une symphonique amenée tout simplement par ces mots. Été 1969, Stanley Kubrick lit donc le roman d'Anthony Burgess, Orange Mécanique, publié lui en 1962. Un roman inspiré d'une histoire vraie, celle du viol de la femme de l'auteur. Un roman lui aussi écrit comme une satire de cette société violente. Cette histoire le fascine tellement qu'il décide de l'adapter au cinéma. Et voici donc l'histoire au XXIe siècle où règne la violence et le sexe. Alex, jeune chef de bande fanatique de Beethoven, exerce avec sadisme une terreur aveugle. Il donne libre cours à ses pulsions destructrices avec sa bande de potes. Les drogues, frappant, violent et tuant donc pour le plaisir. Lui et ses compagnons s'amusent à tabasser un clochard, violent la femme d'un écrivain, tabasse l'écrivain, se battent entre eux. Mais comme cela devait arriver, bien Alex va finir par tuer une femme et après son emprisonnement, des psychanalystes l'emploient comme cobaye dans des expériences destinées à juguler la criminalité. Rendu incapable de toute violence par un protocole expérimental terrifiant qui a violé sa conscience, il devient une orange mécanique, un humain privé de ses propres choix avec cette question du libre arbitre. Si Alex ne peut choisir entre le bien et le mal, est-il encore un homme ? Peut-on être moral quand on n'est pas libre ? Ce sont ces questions que Kubrick veut poser avec ce film.
Et en voilà une autre question, Guillaume. Pourquoi tant de bruit pour ce film ?
Eh bien, très certainement, car le réalisateur ose, dans les années 70, montrer ce qui est immontrable. Kubrick mène effectivement une grande réflexion sur la violence. Violence qui peut être insupportable, d'ailleurs, à voir pour nous, spectateurs. Le génie du réalisateur est tout simplement de rendre ce sadisme acceptable. Et nous devenons donc les complices voyeurs du déchaînement de violence auquel nous allons assister. Orange Mécanique fait immédiatement scandale, mais le 7e art, sans ce film culte, n'aurait peut-être pas été tout à fait le même. Et si Orange Mécanique marque de façon indélébile son spectateur, c'est aussi et surtout grâce à son point de vue. En effet, nous n'appréhendons les scènes qu'à travers les yeux du narrateur et du personnage principal. Et ce procédé permet de montrer des scènes d'une extrême cruauté en les rendant tolérables. Il permet également de créer un lien avec le personnage central dont la morale pourrait repousser le spectateur.
Alors, au-delà des scandales, Orange Mécanique sort finalement sans être coupé.
Oui, le 20 décembre 1971, le film est présenté pour la première fois à New York. Il fait un tabac. Le public se précipite et à peine sorti, eh bien, il regagne la file pour retourner dans le cinéma. Mais on s'écharpe aussi à son sujet. Les uns qualifient l'œuvre de fasciste, d'autres de libertaire. Beaucoup le jugent trop violent. Ce qui gêne, c'est que la violence, à force d'être esthétisée, chorégraphiée, devient presque symbolique et poétique. Et en France, le public doit encore attendre pour voir ce film à la réputation sulfureuse. Classé X par les Américains et interdit en Italie, en avril 72, enfin, il sort sur nos écrans. La France va interdire le film aux moins de 16 ans. Succès planétaire et la France ne va pas faire exception. Plus de 7 600 000 spectateurs se pressent dans les salles obscures pour voir ce film dont tout le monde parle et qui sera premier au box-office français en 1972. Succès total donc. En 30 ans de censure, le film est devenu culte. C'est l'effet pervers et délicieux de la méthode, les censeurs devenant arroseurs arrosés. À retrouver donc ce vendredi 17 avril 21h15 à la Cinémathèque de Toulouse dans le cadre du cycle Pop. Visible lui jusqu'au 28 juin prochain. Retrouvez toute la programmation sur la cinémathèque-de-toulouse.com et en Blu-ray et DVD chez Warner Bros. Et d'ici là, ouvrez l'œil et le bon. Et surtout, allez au cinéma.
Guillaume Sidom parlait des machines électroniques, autres synthétiseurs qui balbutient à l'époque, et pourtant, Wendy Carlos, la compositrice américaine, a été celle qui a le mieux trituré tout cet univers classique pour en faire la musique de Orange Mécanique, et puis plus largement, celle de Stanley Kubrick.
N'oubliez pas l'ouvreuse sur Radio Présence.
Ye roshan suneheri si jhilmil tikirne ये पहले पहर की सी जगमगती किरने ये चिड़ियों के संग संग चहकती सी किरने ये फूलों के रंग रंग महकती सी किरने दिलों में उम्मीदें जगाती सी किरने.
En Inde, on aime les images, Vanessa Bianchi, mais on aime aussi beaucoup la musique qui les accompagne, comme celle-ci qu'on retrouve dans Gandhi Talks, un des films que vous proposez.
Oui, c'est vrai, la musique est très importante, et dans ce film-là en particulier, elle l'est d'autant plus que, par ailleurs, c'est un film sans dialogue.
Ah, ça doit être assez extraordinaire.
Et en fait, c'est d'autant plus intéressant aussi parce qu'en Inde, il y a beaucoup de codes, de gestuels au niveau d'expressions par les regards, de choses qui passent sans les mots. Et dans ce film, je trouve que c'est très 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 bien rendu, justement, parce qu'il n'y a pas de dialogue.
Gandhi Talks, si on comprend bien, c'est Gandhi qui parle ?
Oui, c'est vrai. Ça part d'une symbolique, en fait, puisque tout le monde a une image assez universelle de Gandhi, pacifique, qui prône certaines valeurs humanistes, etc. Et ce film, entre autres, aborde la corruption et le fait que ces valeurs datent un peu aujourd'hui. Qu'est-ce que ça donne aujourd'hui ? Ça donne quelque chose de pas très souriant.
On a une image du cinéma indien qui est un peu un cinéma fait de romance où on se fait la cour, où les familles sont plutôt joyeuses, où on danse beaucoup aussi. Il n'y a pas que ça. Comment vous arrivez à donner un panorama, une belle image de tout ce qui compose le cinéma indien, parce qu'il y a de tout dans votre programmation.
Il y a de tout dans notre programmation, ce que vous abordez, la romance, etc. On la traite essentiellement avec le dernier film, qui est le film de clôture, où on annoncera les prix. C'est une très jolie comédie romantique qui date de 2014, si mes souvenirs sont bons. Mais on n'a pas choisi un Bollywood, on a choisi un film du Kerala, un film malayalam, et c'est très joli, très frais. Mais c'est vrai que sur les autres films, on aborde, en tout cas en tant que programmatrice, ça a toujours été le cas. Ce qui m'intéresse, c'est de montrer une Inde qui vit aujourd'hui, dans l'instant présent, de montrer de quoi est-ce qu'elle est constituée, à quelle problématique elle est confrontée. Parce que l'image que nous avons souvent de l'Inde est une image qui n'existe pas tant que ça, ou en tout cas qui n'existe plus.
Il y a, j'ai regardé dans les genres des films, oui. On a tout, donc drame, il y a comédie noire, oui. Et road movie. Ah oui, c'est vrai, en Inde. C'est grand, l'Inde.
Oui, alors, c'est moi qui ai donné l'intitulé road movie. Je l'ai donné, au début, le road movie, c'est un concept de cinéma américain avec les grands espaces, ce genre de choses. Ce qu'on a pu voir par la suite, c'est le fait de sortir de sa zone de confort, et parfois pas très loin. En plus, j'ai en tête un film français de Manuel Poirier, Western, qui il se promène comme ça. Oui. C'est un peu, c'est pas du tout le même sujet, mais c'est cette définition-là du road movie où finalement on ne va pas si loin, mais on découvre, on sort de sa zone de confort. Et pour le coup, c'est un personnage, c'est un portrait de femme qui n'a pas vu grand-chose. Et qui est amenée à devoir sortir de son village pour vendre des nattes, et qui découvre tout un univers dont elle n'avait même pas idée, des personnes, des plats même. Et ça donne non seulement un portrait, mais une femme qui finalement se découvre et découvre ses limites et qui en sort grandie.
Guillaume.
Oui, les films sont, vous parlez de dialogue, mais de sans dialogue, mais la plupart des films évidemment sont avec des dialogues, ils sont évidemment sous-titrés en français, mais justement pour un sous-titrage de qualité, comment vous procédez? Et y a-t-il des péripéties parfois jusqu'au dernier moment?
Il y a des péripéties jusqu'au dernier moment. J'en ai eu une cette semaine. Comment est-ce qu'on procède? En général, nous ne parlons pas toutes les langues indiennes, donc je pars du sous-titrage anglais. Par contre, bon, on en connaît quand même un petit peu sur certaines, et on a un réseau avec lequel on se consulte pour vérifier si on ne fait pas de contresens. Oui, dans les péripéties, cette semaine, j'ai vu un film qui aurait dû arriver avec un sous-titrage français, et dont le sous-titrage français est tellement déplorable qu'il est inutilisable, et donc là, dans l'urgence, on est en train de refaire tout le sous-titrage. C'est vrai que c'est quelque chose qui me tient à cœur. Le cinéma indien a souvent eu la réputation d'être un cinéma de piètre qualité, avec des sous-titrages catastrophiques, et je tiens vraiment, vraiment à démontrer qu'on peut faire du sous-titrage de qualité et avoir de bons films.
Et au niveau de la question de la visibilité, je crois que le cinéma indien est le plus gros producteur de cinéma au monde. Combien de films sont produits par an, et comment vous arrivez à rendre visibles les films que vous avez sélectionnés?
Alors, je ne sais pas si c'est toujours le premier producteur, mais si ce n'est plus le premier, c'est le deuxième. En production, en tout cas en films qui sont enregistrés, donc officiellement enregistrés, on dépasse les 2000. On dépasse les 2000. Pour autant, vous avez aussi beaucoup de films grand public qu'il m'arrive de programmer, mais en général, ce ne sont pas ceux qu'on a envie. Ce qu'on a envie d'amener, ce sont des films que les Français ne verront pas forcément sans aller vraiment les chercher avec difficulté. Ce qui est le cas là, hein. On a à peu près 90% d'inédits. Non, c'est pas à peu près. En long métrage, on est à 90% d'inédits en France. Comment je fais? C'est une veille permanente. J'ai déjà commencé ma veille pour 2027, en fait, du moment où cette programmation est arrêtée, je rouvre mon fichier et je commence à me mettre en veille pour 2027. Donc c'est une veille continue. Une veille continue toute la semaine, toute l'année, avec beaucoup de visionnage, beaucoup d'échanges. Après, avec le temps, ça va faire maintenant plus de 10 ans. Que je suis programmatrice, donc plus de 10 ans, vous avez du réseau, et il arrive que des personnes en Inde attirent mon attention sur tel ou tel film aussi.
Eh bien, On va continuer cette conversation passionnante avec vous, Vanessa Bianchi. Merci. Je rappelle que vous êtes la programmatrice, si vous ne l'avez pas compris, du Festival des cinémas indiens de Toulouse, qui se tiendra du 22 au 26 avril prochain. Pour le moment, l'actualité de la semaine avec vous, vous scrutez l'affiche, Laurent Martin, avec l'ouvreuse.
À l'affiche cette semaine, Juste une illusion, le nouveau film d'Olivier Nakache et Éric Toledano avec Louis Garrel, Camille Cotin et Pierre Lautin. Nous sommes en 1985, rappelez-vous, mesdames et messieurs. Ça a existé en 1985, c'est loin déjà. Vincent, 13 ans, vit en banlieue parisienne dans une famille de la classe moyenne entre un grand frère distant et des parents en conflit permanent. Alors qu'il n'est déjà plus un enfant, mais qui n'est pas encore un adulte, nous allons partager ses questions et ses doutes sur l'identité, l'amitié, la famille, la religion, le désir et les premiers élans amoureux. Une comédie sur cette période de l'enfance où l'espoir de changer le monde n'était pas juste une illusion. Alors rebondir après un insuccès n'est jamais aisé, sans parler de bide, hein, 900 000 entrées quand même pour le dernier Nakache Toledano, qui était une année difficile, a été mal accueilli. Et donc plutôt que de s'échiner à poursuivre dans ce style d'humour plus ironique et donc clivant qui se marie mal avec leur ADN, ils ont décidé avec juste une illusion de revenir aux fondamentaux. Ce vivre ensemble souvent regardé de haut, à qui ils savent eux donner ces lettres de noblesse, et ce quel que soit son périmètre, un périmètre familial avec leurs films tellement proches, associatif avec Hors Normes, amical avec Nos Jours Heureux, ou alors un périmètre professionnel avec le sens de la fête où tout cumulé comme ici. Car Juste une illusion est un film multiple. L'histoire d'un père donc face au déclassement du chômage, alors que sa femme, elle, dynamite, elle, à son boulot, et tous les plafonds de verre. L'organisation mouvementée d'une bar mitzvah. Le premier coup de foudre d'un ado pour la plus belle fille de son collège. Le quotidien d'une famille impactée par tous ces événements. Nakache et Toledano entremêlent toutes ces intrigues avec une fluidité jamais prise en défaut. Comme ils entremêlent les moments de rire et d'émotion, et ça, ils savent vraiment bien le faire. Il y a une pureté dans leur écriture, dans la situation, dans les personnages, un sens aigu du populaire et un talent de chef d'orchestre capable de réunir et de faire résonner ensemble des solistes venant chacun avec leur style et leurs univers. Louis Garrel, donc je l'ai dit, Camille Cotin et Pierre Lautin, irrésistible, grimé comme on l'était dans les années 80. Enfin, il y a cette manière de se retourner sur le passé avec une nostalgie assez malicieuse. Les années 80 sont bien sûr partout à l'écran, on sait que c'est difficile de faire un film de reconstitution dans la déco, les costumes, les looks, comme dans la BO, excellente, mais sans revendiquer le moindre c'était mieux avant. Inspiré par leur jeunesse, ce film transcende aussi bien l'autobiographie que le film d'époque. Vraiment une générosité en lettres majuscules. Alors, je reviens sur la BO, qui est quand même à tomber. Hein. Imagination, Téléphone, Cabrel, Alan Parsons Project, Christopher Cross, Simply Red, 10cc, The Cure, Toto et Joy Division. Rien que pour la BO, il faut y aller. Petite revue de presse sur ce film. Première a beaucoup aimé. Toledano et Nakache y ont glissé une large part d'autobiographie et cela se sent, le film a du vécu. Le Figaro, sous la plume d'Éric Neuf, a aimé aussi. Une comédie émouvante et nostalgique qui vise juste. Petit bémol pour Libération. Le film empile les unes après les autres des références aux vertus exclusivement nostalgiques au milieu desquelles un maigre récit tente d'exister. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir La Corde au cou, le nouveau film de Gus Van Sant avec Bill Skarsgård et Colman Domingo et Al Pacino. C'est l'histoire vraie de Tony Kiritsis, un homme ruiné à cause d'un emprunt. À Indianapolis, bien connu pour son circuit, le 8 février 1977, Tony va kidnapper le fils du courtier responsable de sa situation. Il réclame 5 millions de dollars et des excuses. La prise d'otage va quand même durer 63 heures sous les yeux de la télévision locale, puis nationale. L'Amérique se passionne pour cette affaire. Chacun va choisir son camp. Alors Tony est-il un criminel ou simplement une victime qui réclame justice? Dans Paranoid Park en 2007, Gus Van Sant travaillait les tourments de son protagoniste par un mélange d'images en Super 8, 35 mm et des ralentis, rendant ainsi compte d'un personnage instable. Mais on retrouve ce procédé dans cette corde au cou. Le réalisateur de Elephant a une volonté de faire corps avec la texture même du film, de saisir les vibrations du cadre. à l'aide d'une esthétique volontairement ton sur ton, cette cour de cou dialogue avec le récent The Mastermind de Kelly Richard, et tous deux partagent ce regard distant vis-à-vis d'une époque dépouillée de son vernis romantique habituel. On pense aussi à Sidney Lumet avec l'excellent
L'imprimidi de chien.
Ouais, l'imprimidi de chien 75, j'ai
Network aussi,
c'est mon film préféré. Network aussi, dont on reparlera tout à l'heure.
Après Midi de chien, il y a aussi Al Pacino.
Exactement, c'est ce que j'allais dire. Ouais. C'est écrit entre parenthèses, dont l'acteur principal, Al Pacino, est aussi au générique de la cour de cou. C'est toujours un plaisir de revoir Al Pacino. Donc, Sidney Lumet, en 75, déjà, avait poussé cette folie à un niveau d'incandescence inégalé. Il faut absolument voir ce film si vous ne l'avez pas vu. Un après-midi de chien, c'est vraiment, il faut le voir. Petite revue de presse sur la cour de cou de Gus Van Sant, une formidable comédie noire et politique selon Abus de Ciné, un incroyable fait divers comme base d'une stupéfiante comédie policière. Ce fut l'une des plus belles surprises du dernier festival de Venise, marquant le grand retour d'un cinéaste engagé et populaire à la fois, Gus Van Sant, selon Bande à part. Quelques bémols pour Criticat.com, un film raté, mais curieux dans sa volonté de condenser toutes les facettes du cinéma de Gus Van Sant. Écran large n'a pas aimé non plus. Difficile de comprendre où est Gus Van Sant dans ce petit film, pas trop mal exécuté, mais qui manque cruellement de force et de point de vue sur cette histoire, autant que le scénario que la mise en scène. À l'affiche aussi cette semaine, on peut voir Une fille en or de Jean-Luc Gagé au CGR Montauban-le-Paris ou à la BC Toulouse. On peut voir Bagarre de Julien Royal. On peut voir Morlaix de Jaime Rosales à la BC Toulouse. La petite graine de Mathias Ecola Rifkis au CGR Rodez. Hayat de Zeki Demir Kubruz à l'américaine Cosmographe. On peut voir La fille du combini de Yu Ishibashi au Grand Palais à Cahors ou à la BC à Toulouse. On peut voir aussi Good Luck, Have Fun, Don't Die de Gore Verbinski au Pâté La Belge, au CGR Montauban ou à Blagnac. Le film d'horreur de la semaine, ce sera Le Retour de la Momie, et non pas Le Retour de la Mamie, hein, comme m'a écrit l'ouvreuse pour me faire une blague. Le film de Lee Cronin. Et puis, dès 3 ans, le film d'animation de la semaine, ce sera Edmond et Lucie, La Forêt, c'est l'aventure de François Narbou. On peut voir ça à l'américaine Cosmographe.
Nostalgie, illusion, en tout cas c'est là où veulent arriver Toledano et Nakash avec juste une illusion. C'est tellement beau ces années 80 qu'on en oublie tous les problèmes qu'on avait à cette époque-là, et en particulier ceux du chômage. On les évoque dans le film forcément, mais c'est un peu idéalisé. Et de toute façon, il y a cette musique, ces groupes dont vous a parlé Laurent et Téléphone, Un autre monde, ou Vincent.
S'il revient en 2026, il faudra changer de nom, ce sera portable.
Oui, mais c'est quand même un téléphone,
c'est ça.
Portable.
Ouais.
Toujours est-il que Vincent, l'ado de la famille,
oui,
arrive à s'échapper le soir, va réussir à retrouver Anne, Karine, et tous les deux vont foncer à la Concorde où il y a un meeting de Touche pas à mon pote, et
oui,
avec un grand concert. Bah, dans ce concert, il y a Téléphone qui joue Un autre monde. Et l'on retrouve notre homme de loi des séries qui, ce soir, va revenir sur Malcolm. Rien n'a changé. La suite sur Disney+.
Je déclare l'audience ouverte.
Yes, no.
Cher Louis-Marie, vous le savez, pour vous et pour nos auditeurs, je suis prêt à prendre tous les risques, même reprendre un abonnement à Disney+, pour aller dans les bas-fonds des séries télé et aller observer le revival de la série Malcolm. Ça m'a fait mal, mais pour vous, je l'ai fait. Alors en fait, Malcolm, c'est une série que j'adore, d'ailleurs je l'avais présentée dans mes premières chroniques à N'oubliez pas l'ouvreuse, et je soulignais le fait que c'était une série donc, qui présentait le jeune Malcolm, un jeune homme surdoué dans une famille américaine moyenne, très dysfonctionnelle et un peu cassos, mais très attachante, que ça nous permettait de faire une satire totale de l'idéal américain, mais aussi de délivrer un message politique assez fort. Et il y avait un principe dans Malcolm que j'aimais beaucoup, c'est qu'on pouvait se moquer de tout le monde, et tout le monde était un peu méchant. Un peu méchant, gentil, mais quand même. Vous savez, un petit peu cet humour que j'aime bien, avec des héros un peu mesquins, et ça finit toujours par se retourner contre eux. Ben, c'était un petit peu cet humour-là dans Malcolm, et moi j'adore. Et le problème, c'est que quand ils ont annoncé ce revival, ils ont dit, on va le faire pour plaire à une audience moderne. Et là, déjà, on a tout ce qui va pas. Alors, je vais évacuer le premier point qui reste énormément sur les réseaux sociaux parce que c'est pas le plus important et le plus intéressant. Oui, évidemment, ils ont rempli le cahier des charges Disney+ ou Netflix. L'ami de Malcolm, Stevie, est devenu gay, ce qui n'était pas du tout le cas avant, mais bon, pourquoi pas. Et la sœur de Malcolm, celle qu'on nous annonçait la naissance dans le dernier épisode, est non-binaire. Voilà, alors moi ce qui me pose problème là-dessus, c'est que déjà, on nous pose ça, mais c'est vraiment cahier des charges. C'est-à-dire que voilà, on nous l'annonce, mais il n'y a pas d'humour, il n'y a pas de satire, rien là-dessus. Parce que le potentiel comique avec la famille dysfonctionnelle de Malcolm pouvait être très intéressant. Mais pas du tout. C'est-à-dire que vraiment, on voit, on a rempli le cahier des charges. Je trouve ça insultant, je trouve que c'est une vraie paresse d'écriture. Et en plus, ils veulent être innovants, mais pas du tout. Enfin, c'est le cahier des charges de toutes les séries Netflix et Disney+ depuis 2010. Donc en fait, vous n'êtes pas du tout innovant. Et en plus, vous ne savez pas écrire ces personnages. Bref, j'évacue, c'est nul et ça ne sert à rien. Le point qui m'a le plus embêté, c'est effectivement sur le traitement de Malcolm. Donc oui, il est dans une ONG, il a quand même bien réussi. Il a une compagne, mais il a eu une fille cachée qu'il a eue avec un coup d'un soir à la fac. Bon, déjà, ça correspond pas vraiment au personnage de Malcolm. Et c'est la raison pour laquelle il cache cette fille cachée à sa famille et qu'il ne voit plus sa famille, notamment. Et alors, on sent que c'est l'idée forcée pour éloigner un maximum Malcolm de sa famille, alors qu'il y avait quelque chose de plus simple, et il le montre dans la série, le fait que quand il les retrouve, il devient tout fou comme eux. Donc, c'était pas la peine de faire ça comme ça. Donc déjà, faiblesse d'écriture. Ensuite, on va être honnête, je n'ai pas rigolé une seule fois sur ces épisodes. Et je les ai trouvés longs, alors qu'ils font 25 minutes. Je me suis ennuyé. Les derniers épisodes, je les ai passés plus vite, tellement que je m'ennuyais. Ça ne m'était jamais arrivé sur des épisodes de Malcolm. L'autre point derrière, et c'est ce qui m'embête le plus, c'est qu'on nous a menti. Et moi, je déteste qu'on mente aux téléspectateurs. C'est simple. On nous a vendu ça comme un revival pour faire plaisir aussi aux fans. Non. En fait, on nous tease une nouvelle série. Notamment avec l'ajout donc, de la fille de Malcolm, qui a le même pouvoir que Malcolm, c'est-à-dire qu'elle s'adresse au public et elle casse le quatrième mur. Et clairement, l'objectif, c'est de nous vendre ce personnage-là, tout en nous vendant certaines intrigues avec l'ancien casting et Malcolm surtout, en fait. Donc en fait, on nous attire et en nous disant, hey, regardez, on va vous vendre autre chose, c'est bien, c'est moderne, c'est mieux. Et ça m'ennuie profondément. Ça m'ennuie profondément parce que déjà tous les passages, et je suis pas l'actrice qui pose problème, mais tous les passages avec la fille de Malcolm sont inintéressants. En fait, il y a des séries sur les ados qui sont bien meilleures aujourd'hui. Et clairement, en fait, on n'est pas venu là pour pour ça. On n'est vraiment pas venu sur ce sujet-là. Donc, au final, on a un revival qui tente de faire du moderne, mais qui en fait fait de l'ancien. On a un revival qui nous fait revenir beaucoup du casting. Alors, ça fait plaisir de les revoir, mais c'est pas drôle. C'est pas sympathique. Finalement, le message politique est un peu endormi. Et ce qui, moi, m'embête le plus, c'est qu'on avait une fin excellente à Malcolm, une des meilleures fins de série télé, et qu'en fait, on vient gâcher cette fin avec une continuité qui est assez mauvaise. Je terminerai par ça. Laissez nos vieilles séries là où elles sont, innover, créer, mais essayez pas de faire des revivals. Vous savez plus écrire comme avant, votre niveau a trop baissé, et en fait, vous ne faites que détruire votre héritage. Voilà, donc, chers auditeurs, chères auditrices, votre temps est évidemment précieux. Il n'est pas du tout à dépenser devant Malcolm ce revival. Regardez plutôt les premières saisons, parce que je dois avouer quelque chose. Les deux dernières saisons de Malcolm n'étaient pas non plus exceptionnelles. Et au final, ce revival ne fait que continuer la chute. Mais c'est dommage, il trahit la fin. Je vous remercie.
Vous l'avez bien compris, à ne regarder si vous n'avez vraiment rien d'autre à faire. Ah, à propos de la BO générique de Malcolm, que ce soit le revival ou les précédents, c'est un groupe qui s'appelle The Might Be Giants. Eh oui. Suis à la trace, c'est pas de velours. Eh oui, la Panthère Rose est de retour. Et c'est le premier film de la série. 1963, Black Edwards, c'est nos amis du VO de Muret. Vive le cinéma à Muret qui le programme dimanche prochain, 19 avril à 18h20, pour se souvenir qu'en fait, au début, la Panthère Rose n'était pas du tout une panthère, mais...
Un diamant.
Ben oui. Un diamant rose, évidemment. Et oui. Et toute l'idée du film, en fait, au départ, ce film devait être le prologue d'une histoire de fabuleux. Vous savez, ces voleurs façon Arsène Lupin, ben oui, qu'on aime, le fantôme incarné par David Niven et puis son neveu, Robert Wagner.
Ouais. Oui.
Oui. Sauf que. Ils se sont fait voler la vedette par un personnage de second plan, l'inspecteur Clouseau. Il faut dire que c'était Peter Sellers. Depuis, à partir de ce film-là, où littéralement il aura piqué la vedette, mais c'est vrai, c'est authentique, au départ c'était pas lui la vedette, il est devenu le personnage central de tous les films, l'inspecteur Clouseau, ce flic français qui se prend toujours les pieds dans le tapis, qui est jamais au bon endroit au bon moment, et qui s'arrange pour tout gâcher.
Une espèce de Pierre Richard anglais, mais français quand même.
En tout cas, oui, il est français dans le film l'inspecteur Clouseau. À noter donc La Panthère Rose, ce film fabuleux de 1963. La musique, évidemment, elle est signée Henri Mancini. Et vous pouvez voir le film à Muret, au VO, dimanche 19 avril à 18h20. On va aller vite pour aller au cinéma Pathé Labège pour revoir un bio-exorciste. Vous savez, quand on a des fantômes dans la maison, on fait appel à un exorciste.
Ça vous est arrivé, je crois.
Oui, oui, c'est vrai. Et quand on a des vivants qui sont là dans votre maison...
On appelle ça des squatteurs.
Que vous hantez parce qu'elle était votre maison, mais comme vous êtes...
Monsieur les connaisseurs.
Que vous êtes mort. Alors, il faut faire appel à un bio-exorciste pour faire partir les vivants, pour être peinard dans sa maison, oui, la hanter tranquillement. Ce bio-exorciste, c'est Beetlejuice. Tim Burton, il l'a cartonné ce film lui aussi quand il est sorti en 1988, et oui déjà, et il a révélé une toute jeune comédienne qui s'appelle s'appelle Winona Ryder. Le film est à voir donc au Pâté la Belge lundi 20 avril à 21h. Sinon, vous irez au Pâté Wilson pour voir Batman Begins, le premier volet de la trilogie initiée par Christopher Nolan. C'était en 2005. Cette trilogie, The Dark Knight, le Batman qui aura les traits de Christian Bale. Et il faut dire que ce renouveau du personnage a plutôt bien marché et bien fonctionné. Oui. Et celui-ci en particulier, qui est le premier donc à voir mardi 21 avril à 19h30. Et puis, il y a un petit film signé Nicky Caro, Paille, l'élu du peuple nouveau, qui est passé un peu inaperçu. Il est sorti en 2002. Et bon, c'est un film à voir en famille. Dès une dizaine d'années, on peut savoir, ça se passe dans le Pacifique. Il y a une jeune fille qui s'appelle Paikea, qui naît le jour même où sa mère va mourir en couche, mais en même temps que son frère jumeau. Elle avait un jumeau. Et donc, elle devient la seule héritière de la famille, mais c'est une fille, et ça doit être un garçon qui doit prendre la tête du clan. Ah, il va falloir convaincre la tribu pour qu'elle devienne la chef du clan. Et il faut être capable de parler avec les baleines. Découvrir donc l'élu d'un peuple nouveau de Nick Caro, vendredi 17 avril à 20h. Et puis, on ira faire un tour pop, parce qu'il n'y a pas qu'Orange Mécanique à la Cinémathèque, maintenant flambant neuve. Il y a un film complètement délirant, laissez-moi le retrouver, qui s'appelle Candy. Ouais. Candy. Alors là, on touche à quelque chose d'assez renversant.
Elle est retournée au pays, Candy.
Oui. Ouais, un objet cinématographique extraordinaire, l'histoire d'une lycéenne qui ne sait pas trop ce qu'elle veut, qui sèche. Et non, c'est pas du tout Candy. Par rapport à ce qui se passe dans le film, c'est pas du tout ça. Alors, elle va croiser les rôles de personnages incarnés, tenez-vous bien, par Marlon Brando, Richard Burton, James Coburn, John Huston, Charles Aznavour, Walter Matthau, Ringo Starr, Elsa Martinelli, Sugar Ray Robinson, Les Patovani, et je ne vais pas tous les citer. Vous rendez compte de cette distribution? Oui. Un film qui est sorti en 1968, alors complètement délirant. Et puis, un monument du cinéma, Sunset Boulevard. Il faut pas rater ça. Billy Wilder, William Holden, Gloria Swanson, qui joue le rôle d'une actrice qui veut revenir au premier plan, et elle se parodie finalement elle-même. Elle a laissé.
Et le cinéma muet est devenu parlant.
Elle a laissé Billy Wilder la filmer au plus près. On voyait ses rides, et c'est assez extraordinaire, puisqu'elle est redevenue une actrice monumentale après ce film-là. Mmh. À découvrir donc à la Cinémathèque. Alors, je vais essayer de vous retrouver les jours. Ça va être compliqué. Pour Candy, c'est demain.
Et pour Boulevard du Crépuscule, c'est samedi 18 avril, 21h.
Et pour Candy, dites-nous.
Eh bien, c'est le vendredi 17 avril à 19h.
Voilà, vous savez tout pour le grand écran. C'est à vous, Laurent, pour le grand écran. C'est à vous pour le petit. Oui, je me suis pas trompé.
Le cinéma, la télévision, ça commence dès ce soir sur Arte à 21h avec les deux Alfred de Bruno Podalydès, avec les frères Podalydès et Sandrine Kiberlin. Alexandre, chômeur à 2 mois pour prouver à sa femme qu'il peut s'occuper de ses 2 jeunes enfants et être autonome financièrement. Problème, la start-up qui veut l'embaucher a laissé à pour d'hommes pas d'enfants. Un film poétique et caustique qui confirme que le réalisateur n'a pas son pareil pour capter l'air du temps. Vendredi, France 5, 21h, Le Gorille vous salue bien, de Bernard Bordery avec Lino Ventura et Charles Vanel. Un film que je ne connaissais pas, donc on va le découvrir ensemble. C'est l'histoire de Géo, dit Le Gorille, un agent des services secrets français, qui est chargé par le colonel Berthomieux de remonter la filière d'un groupe d'espions impliqués dans la vente de plans militaires. Les Gorilles, c'était une série B typique des années 60, qui ont eu leur heure de gloire grâce au talent de Ventura. Ici, l'humour et l'action. Si on se mélange avec bonne humeur, le spectacle est plutôt efficace apparemment. Dimanche, Arte, 21h, hein, Western, messieurs, Les Grands Espaces de William Wyler avec Gregory Peck et Charlton Heston, film de 1958, l'histoire de James McKay qui arrive dans un petit village du Middle West pour y retrouver sa fiancée. Il se heurte bientôt à l'hostilité du contremaître du ranch, amoureux lui aussi de la jeune femme, un western humaniste passionnant et majestueux. Lundi, Arte, 22h50, voilà, faut pas rater ça, c'est Network de Sidney Lumet. On en a parlé tout à l'heure, un film de 1976 avec Peter Finch, Faye Dunaway et William Holden. Alors qu'il vient d'apprendre son renvoi, l'animateur vedette Howard Beall fait une sortie virulente à l'écran et cette colère a un tel retentissement populaire mais qu'on lui conserve son emploi et qu'on fait de lui un prophète des ondes. C'est vraiment une dénonciation intelligente et corrosive des dérives de la télévision, telle qu'on peut le voir de nos jours en 2026, avec une distribution vraiment somptueuse par le réalisateur de Serpico et d'Un après-midi de chien, vraiment à ne pas manquer. Le conseil de lecture, ce sera un conseil de BD, La guerre du retour contre-attaque, de Thierry Vivien. Voilà, c'est une BD parodique, pleine d'humour, décalée pour les fans de Star Wars, aux éditions Jungle. Voilà, vous pouvez, pour moins de 10 euros, sur tous les bons sites d'occasion, voilà, pour faire plaisir. Et si le premier tome vous plaît, il y a plein d'autres tomes pour la suite. Voilà pour le cinéma et la télévision cette semaine.
Décidément, je suis trop vieux pour ces conneries.
Ah, moi aussi.
Magnifique morceau qu'on peut retrouver dans Homme Shanti Oshana, je ne vais pas plus loin, c'est le titre du film dans lequel on retrouve ce morceau, Kati Mulio. C'est le film justement qui fait la clôture du Festival des cinémas indiens.
Oui, c'est le deuxième film Malayalam, en Malayalam de la programmation. Et c'est un film qui date d'il y a une dizaine d'années, je pense que j'en ai déjà un petit peu parlé. Une très jolie comédie romantique qui est un coup de cœur des deux coprésidentes, et en particulier de Elodie, la directrice communication, celle qui est à l'origine de tous les beaux visuels que vous voyez. Donc on en a parlé au réalisateur qui était absolument enchanté et honoré, nous a-t-il dit, qu'on le prenne en film de clôture. C'est une comédie très rafraîchissante.
Bon, en tout cas, la musique, elle est extraordinaire. Il y a une journée focus, il faut en dire deux mots quand même. Regard féministe et résistance politique, être réalisatrice de documentaires en Inde. C'est facile ou pas?
C'est un peu compliqué, mais c'est très stimulant. J'ai beaucoup appris, c'est un sujet qui me passionne, le documentaire et les réalisatrices de documentaires aussi. J'en ai rencontré quelques-unes, pas toutes malheureusement. C'est passionnant parce qu'on se rend compte, alors vous me direz comme partout dans le monde, mais en Inde peut-être encore plus qu'ailleurs, à quel point c'est un combat et c'est difficile de ne pas être militant et de vouloir faire du documentaire. Parfois, elles se sont réveillées militantes, elles n'étaient pas parties avec cette optique-là. Et je pense qu'on serait surpris de découvrir à quel point l'Inde a une histoire du documentaire exceptionnellement riche et ancienne. Ça sera l'occasion, mercredi.
Alors, ça se passe où? C'est une journée, l'entrée est libre.
L'entrée est libre, ça se passe à l'espace diversité laïcité. C'est toute une après-midi, de 13h30 à sans doute 18h, ça dépend aussi du débat avec le public. On y diffusera au moins 4 films documentaires de réalisatrices. C'est l'occasion de découvrir à quel point elles ont été productives, actives, elles le sont encore, et combien ça essaime. On n'oubliera pas que Payal Kapadia, qui a eu le Grand Prix du jury en 2024, avait eu un prix à Cannes pour son documentaire qui était sorti en France, toute une nuit sans savoir.
Oui,
et c'est 38 rue de Buisson.
Oui, merci de le rappeler.
Oui, l'espace diversité. Ouais.
Alors, les programmations, les films à voir se partagent en différents endroits. L'essentiel de la compétition, puisqu'il y a une compétition, se passe au Pathé Wilson.
Pathé Wilson est à l'ABC pour les longs métrages, et pour les courts métrages, ce sera à l'espace diversité laïcité et à la médiathèque Grand M. Un petit bijou, l'auditeur.
Et la médiathèque José Cabanis?
La médiathèque José Cabanis, c'est le 19 avril, c'est pour la reprise d'un prix du public de 2024, 12 Fail, qui est un film vraiment intéressant, un film populaire, très intéressant, ouvert à tous aussi.
Vanessa Bianchi, c'est toujours un bonheur de vous recevoir. En tout cas, on a envie de foncer au Festival des cinémas indiens, 11e édition, du 22 au 26 avril. Guillaume, vous devez avoir le site, l'adresse du site.
Alors, il y a pas de, je crois pas qu'il y ait de site internet, sinon il y a pour suivre l'actualité du festival @ToulouseIndianFilmFestival.
c'est... y a aussi un site.
Alors, il est où le site?
Pareil.
Oui, oui, c'est pareil. c'est celui-là.
Vous tapez sur Google, vous le trouverez.
Ouais. Voilà. C'est ça, on est très bien référencés.
Festival des cinémas indiens de Toulouse, exactement. Vanessa Bianchi, sa co-directrice et directrice de la programmation, était avec nous. Tiens, dans le film de Toledano et Nakash, on entend ça, et oui, c'est pas de l'époque.
Faites-nous plaisir.
C'est pas de l'époque.
Ah.
Et oui, ils osent tout. François de Roubaix, 71, dernier domicile connu. Lino Ventura et Marlène Jobert. Extraordinaire. Messieurs, quels sont vos coups de cœur?
Les coups de cœur, juste une illusion, la fille du Combini, la corde au cou et le Festival des cinémas indiens de Toulouse du 22 au 26 avril.
Juste une illusion, la corde au cou, Morlaix et évidemment le Festival des cinémas indiens du mercredi 22 au dimanche 26 avril inclus.
Je ne sais pas si les habitants de Morlaix apprécieront, vous dites Morlaix.
Oui, c'est... La Bretagne
oui,
vous appelez.
Oui, oui, ils ont le sang chaud, ils n'aiment pas qu'on les écorne. Hein. Juste une illusion pour moi, la corde au cou et bien sûr le Festival des cinéma indien du 22 au 26. Merci messieurs.
Merci à
bonne
vous.
Bonne soirée à mercredi.
On espère que vous avez passé un bon moment en notre compagnie. À 20h, Nathalie Cardon. Salut, restez fidèles à la présence.
Écoutez Présence, c'est votre radio. Soutenez Radio Présence, qu'elle devienne aussi la radio de beaucoup d'autres.